Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com. Bienvenue au premier épisode de Star Wars en direct, édition Clone Wars. L'idée derrière ce podcast est en fait de vous donner nos commentaires sur chaque épisode de la série Clone Wars de façon hebdomadaire, sans surcharger notre émission mensuelle. Certains de nos auditeurs l'ont remarqué, nos émissions régulières du dimanche sont quelque peu longues, donc nous avons décidé d'éliminer la chronique Clone Wars et de faire un podcast hebdomadaire à la place. Donc, contrairement à l'émission régulière, Star Wars en direct édition Clone Wars ne sera pas diffusé en direct, mais préenregistré par notre staff et collaborateurs dans la semaine suivant l'apparition de chaque épisode télé. Donc, on va faire tout notre possible pour vous fournir un épisode par semaine, malgré nos horaires très chargés. D'ailleurs, si vous voulez participer à cet enregistrement hebdomadaire, de façon occasionnelle ou régulière, communiquez avec nous à studio@swendirect.com. Pour ce premier épisode, nous avons tout simplement extrait la chronique Clone Wars de la dernière émission régulière de Star Wars en direct, l'épisode 77, et nous l'avons édité comme étant l'épisode 1 de la nouvelle série. Ce qui suit sont donc les commentaires que moi-même, Jean-François, Martin, Louis et Henri avons fait sur les trois premiers épisodes de Clone Wars, soit Ambush, Rising Malevolence et Shadow of Malevolence. Bonne écoute. Rebienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Maintenant, nous allons parler des trois premiers épisodes de la série télévisée Clone Wars. Donc, juste comme référence, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'avaient pas vu le troisième parce qu'il est en onde seulement vendredi dernier, donc il est possible que vous ne l'ayez pas vu. Je crois que Louis, tu ne l'avais pas vu.
Non, moi je l'ai vu, hein, il n'y a pas de problème.
D'accord. Donc, on va commencer par un aperçu général sur les épisodes en tant que tels. Après, on va revenir individuellement sur chacun des épisodes. Donnez-moi peut-être en une ligne qu'est-ce que vous avez trouvé sur les trois premiers épisodes jusqu'à présent. Et puis après, je vais intégrer des questions là-dedans, etc. Puis on va aller par épisode aussi. Donc, vas-y Henri, peut-être en premier.
Donc, j'ai trouvé que le premier épisode, évidemment, comme c'est-à-dire que 22 minutes, j'ai trouvé encore une fois l'histoire un peu simplifiée. Évidemment, on peut pas s'attendre à quelque chose de très approfondi, mais les dessins, on avait eu un aperçu avec le film au cinéma. Mm-hmm. Et moi, j'aime bien. Donc, j'ai bien apprécié ce premier épisode. C'est juste un peu l'histoire. Après, le numéro 2 et 3 qui forment deux chapitres d'une trilogie. J'ai bien aimé le premier et je trouvais que le second s'accélérait. J'ai vraiment bien aimé. D'accord. Donc j'espère que la conclusion sera à la hauteur.
Jean-François?
Moi aussi, j'ai beaucoup aimé les deux derniers épisodes, l'épisode 2 et 3. Côté technique, côté artistique, je trouve que les dessins sont superbes. Même je trouve que, du côté des deux derniers épisodes, même je trouve les dessins supérieurs au film. Mm-hmm. Peut-être parce que justement on le voit à la télévision au lieu de le voir sur un écran de cinéma. Mm-hmm. Mais non, c'est très bon. La seule chose qui je trouve un peu négative, c'est l'humour des Battle Droids.
Okay.
C'est un peu enfantin, mais autre ça, c'est très bon.
Parfait. Louis, toi, qu'est-ce que t'en penses rapidement?
Ben, je vais dire que globalement, c'est pas mal. Hein. Moi, j'avais vu le film. Bon, le film, j'ai pas du tout adhéré.
D'accord.
J'ai fait une crise cardiaque au cinéma. Bon, après, c'est vrai que pour les trois, les premiers épisodes, je pense que déjà, la durée, c'est ce qui fait que la pilule passe beaucoup mieux. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour être en série télévisée de 20 minutes. Là, franchement, c'était une très bonne surprise quand j'ai vu le premier, Embuscade. Mm-hmm. J'ai bien aimé voir un Yoda qui ressemblait à l'Empire Contre-Attaque, qui était un peu espiègle, qui sautait un peu partout, qui rigolait. Le fait d'avoir seulement 3 clones et pas une énorme bataille, ça c'était bien.
D'accord.
Après, globalement sur les 3, ce qu'on peut reprocher d'entrée de jeu, c'est que c'est vrai que c'est toujours la République qui pour l'instant gagne. On aimerait bien voir des grosses batailles gagnées par les séparatistes.
En effet, et puis toi, vas-y, termine, toi.
Bah, pour terminer, sur l'ensemble des 3, je dois dire qu'on retrouve quand même une certaine ambiance de la trilogie classique entre Yoda et entre les batailles spatiales qui sont vraiment plus trilogie originale que prélogie. C'est-à-dire qu'on suit chaque clone dans chaque Y-Wing, par exemple.
Ouais. Et toi, Martin?
En fait, moi, je trouve que d'emblée, je l'avais dit dès le début à la sortie du film, je trouve que tout ce projet-là nous offre exactement, même je le disais à l'époque, lors de la série télévisée Clone Wars, les dessins animés en 2D, que cette approche-là, ce concept-là, nous donne ce que la prélogie nous a pas donné, et c'est vraiment l'ensemble de la fresque. Je trouve que les éléments présentés dans ce format-là se rattachent beaucoup plus à la trilogie originale que la prélogie l'a réussi.
D'accord. Qu'est-ce que vous pensez que les épisodes commencent avec un dicton ou une morale, une leçon de moralité qui est un suivi d'un élément éducatif comme la patience, de jamais abandonner ou size matters not? Vous voyez le genre? Qu'est-ce que vous pensez de l'introduction de ça au début de chaque épisode? Henri?
Ben, je pense que ça rajoute un petit quelque chose pour voir on voit l'épisode d'un autre sens, on dit tiens, ça va être la morale de l'histoire, ça va se concentrer sur ça, donc on se concentre plus peut-être sur le sens caché, et de plus je trouve que ça aussi ça change d'avoir toujours une galaxie lointaine, très lointaine, ça fait une...
Jean-François?
Moi je suis d'accord avec Henri dans le sens que ça donne un peu l'idée à quoi s'attendre de l'épisode. L'épisode va aller en fonction du texte qui est écrit au début. Donc, comme il dit, ça fait changement. La série est différente des autres projets Star Wars, donc il n'y a pas le texte au début de tout ça. Donc, c'est très bien.
D'accord. Et toi, Louis?
Bah, c'est le truc que j'ai trouvé le plus étonnant et le plus sympa, quoi. Bon, maintenant, j'espère que ça va être bien, que ça va tenir dans la durée, parce qu'il faut toujours trouver une sentence sympa à mettre à chaque épisode.
C'est
donc,
vrai.
À voir.
Et toi, Martin?
C'est vrai que à long terme ça peut devenir redondant, mais c'est toujours mieux que d'avoir ce qu'ils nous ont présenté à prime abord, donc le dans une galaxie lointaine avec tout le texte qui défile, ça pouvait pas être faisable avec une série hebdomadaire. On en serait viré malade. J'aurais eu le goût de vomir.
moi, je me demande s'ils sont peut-être obligés de mettre un élément éducatif comme ça selon certaines lois. Comme je sais que G.I. Joe avait tout le temps à la fin un espèce de petit truc sur la morale. Même He-Man avait un truc sur la morale à la fin. Donc, il y a peut-être un fait qu'ils sont obligés d'intégrer ça parce que... Pardon?
Évitez de tuer vos amis.
Ouais. Enfin... le début est toujours...
Du contexte social américain, c'est fort probable.
Ouais.
Éviter les massacres dans les universités.
on mentionnait l'humour chez les Battle Droids. Ça continue de plus en plus. Est-ce que ça commence à vous déranger? C'est certain que ça enlève un peu le sérieux d'une armée. T'sais, c'est supposé quand même être une armée. En plus, ils savent pas tirer, mais bon, c'est sûrement de l'humour plus pour les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez, toi, Henri?
Moi, ça me dérange pas tellement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est que je trouve que ça les humanise un peu, parce que, à force, les droïdes, bon, ils ont beau être indépendants au début, ils finissent par se développer une personnalité, comme un peu comme les clones. Et je trouve que, quelquefois, les voir s'engueuler un peu entre eux, ou se, Je trouve que ça, moi, ça me gêne pas. Là, j'adhère bien, moi.
D'accord.
Ça rajoute un peu d'humour, quoi.
Toi, Jean-François?
Il y a certaines scènes que ça peut, c'est drôle. C'est drôle quand on voit les droïdes qui poussent la petite Joe, la petite craque. Mm-hmm. Mais il y a d'autres scènes qui sont plus sérieuses, qui sont plus intenses, où tu vas voir le droïde qui va pousser une blague, puis c'est comme, on dirait qu'elle a pas sa place. Mm-hmm. Je pense à la scène dans l'épisode Rising Malevolence, où les droïdes, ils détruisent les capsules avec les clones dedans. Mm-hmm. Puis, comme tu vois, ils détruisent la capsule, les clones, tu vois les clones qui meurent, là, qui sont expulsés dans l'espace, puis là, ils poussent la petite craque, je trouvais que c'était comme, ok.
En effet.
Ah, c'est... Ouais.
Et toi, Louis?
Ben, on va dire que trop d'humour, tue l'humour, quoi.
Ok.
Parce que sur certaines sentences, autant c'est hilarant, hein, je vois comme sur une bûche, quand il y a Yoda qui rentre dans le tank, et on a... 2-2-4 qui dit « Ah non, je venais juste d'être promu », ça, je trouvais ça énormissime. Ou quand on a dans Rising Malevolence, quand on a le droïde qui est en train de chanter alors qu'il va détruire les capsules, ça, ça m'a fait hurler de rire. Par contre, il y en a qui sont très lourdes. Là, non, dans Shadow of the Malevolence, on voit le droïde qui dit « Tiens, c'est marrant de tirer quand les autres peuvent pas tirer », et l'autre qui répond moi j'arrive toujours pas à les avoir. Mm-hmm. Ça, c'est un peu lourd, par exemple.
D'accord. Toi, Martin?
Je te dirais que c'est... Que ce soit un élément d'humour ou non, je pense qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Je pense que c'est peut-être pas rendu de la façon la plus idéale, mais j'ai l'impression que les gens qui ont fait cette série-là essaient de véhiculer comme message à travers cet humour-là grinçant, si on veut. Et aussi cette espèce d'ineptitude que les droïdes ont, c'est que c'est de la production en série. Là. La raison pour laquelle les séparatistes ont souvent sont une si grande menace, c'est qu'ils, c'est de la production en série. C'est établi qu'il y a facilement 100 droïdes pour un clone dans les conflits. Donc l'idée est que il faut que ça soit produit en série. Il faut qu'on c'est made in l'équivalent de China dans l'univers de Star Wars.
Made in Camino.
Et puis, made in Camino, si on veut, ouais. Et puis, non, c'est pas Camino, c'est made in Dionysus.
Ouais, voilà. Pour les droïdes, ouais, ok, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc, mais l'idée, c'est ça, c'est que faut que ça soit rentable de produire ces droïdes-là en masse, donc on peut pas mettre un logiciel hyper complexe à générer dedans et tout. Puis, faut comprendre aussi que selon le pouls de la guerre, ils ont pas le temps d'amener de faire les patchs assez rapidement pour mettre les droïdes à jour et ainsi de suite, donc ça peut compliquer la chose. Moi, je vois ça de ce point de vue-là. C'est la raison pour laquelle je trouve le droïde moyen un peu cancre, c'est qu'il a pas eu la dernière mise à jour. Ou il fonctionne sous Vista. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème.
Donc tu me dis que les super battle droids, eux autres, ils roulent sur Mac?
Je te dirais que les Super Battle Droids. Non, les Super Battle Droids, eux autres, ils roulent probablement sur XP.
D'accord.
Puis les droïdes des cas roulent sur Linux.
D'accord.
Non, on voit pas les préférences, c'est inadmissible.
Ouais. Pour ce qui est de Mac, je te dirais que c'est probablement General Grievous qui roule sous Mac parce qu'il arrête pas de tousser constamment.
Ouais, c'est ça.
Moi, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on a fait de la pub pour tout le monde. Comme ça, on est sûr qu'on est clean.
Exactement.
Ouais, c'est ça, voilà.
Pour ce qui est du format télé par rapport au format cinéma, moi, j'ai écouté les deux. Je sais pas si les autres, vous l'avez seulement écouté sur Internet, probablement plus ça en France, vous l'avez téléchargé. Mais à la télévision, ceux qui l'ont écouté à CTV, moi je l'écoutais à CTV, la télé canadienne, il y avait un sérieux problème de cadrage. Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué la même chose. Je veux dire, ils coupaient, ils ont enlevé, ils sont un petit peu un format cinéma, un petit peu plus. Ils ont vraiment enlevé les barres noires, ils ont coupé carrément dans l'image. Il y a certaines séquences où est-ce qu'on voyait, comme par exemple... Le comte Dooku en hologramme, qu'on voyait à peine son visage. Je sais pas si vous avez remarqué. Peut-être ceux qui l'ont écouté au Canada. Jean-François, par exemple.
Non, moi je l'ai vu sur Internet, je l'ai pas vu à la télévision.
D'accord. Mais ça m'a fait décider de ne pas l'écouter sur à la télévision. J'ai été déçu.
Moi, j'ai téléchargé la...
Allez, vas-y, Harry.
Oui, moi, je disais que j'ai téléchargé la version... La semaine suivante de la diffusion, oui, c'est ça, une semaine après, j'ai téléchargé le numéro 1 en 720 pour le voir en HD. J'ai pas trouvé que c'était coupé. J'ai l'impression que c'était exactement la même,
Mais t'avais la même résolution que. Tu avais la source directement de Cartoon Network, c'est ça. Nous, c'était la rediffusion canadienne et au Canada, ils ont comme recoupé l'image.
Ouais.
D'accord. Ben moi, j'ai pas capté, hein, c'était vraiment un téléchargement, donc c'est sûrement quelqu'un qui a.
D'accord. On va peut-être aller plus précisément dans chacun des épisodes. La première devise de Ambush ou Embuscade, c'était « Les grands meneurs inspirent la grandeur aux autres ». L'épisode, en bref, c'est que le maître Yoda et trois clone troopers, Jack, Tyre et Reese, se retrouvent sur la planète... je m'en souviens plus. C'est pas Toydaris, une lune. C'est
une lune. Rogusa, je crois que c'est la lune Rogusa, Rogosa. Ou...
D'accord. Et puis bon.
C'est une lune de l'arrière.
Il est là pour venir. Eux, la République veulent une base sur cette lune-là. Et puis.
Non, sur Toydaria.
Toydaria, d'accord. Et puis.
Parce qu'en fait, ils sont en rendez-vous sur une lune neutre.
D'accord.
Pour faire la discussion.
C'est ça. Et puis, ils veulent installer une base, donc. Malheureusement, la République se fait repousser par les séparatistes et Yoda s'enfuit dans une capsule avec trois clones sur la planète. Et puis, évidemment, le Comte Dooku, comme d'habitude, s'impose et suggère plus l'aide des séparatistes. Et puis, finalement, il va avoir un défi de lancer à Yoda que s'il est capable de rejoindre le roi. Le roi va faire affaire avec la République au lieu des séparatistes et Yoda accepte le challenge ludiquement, donc comme s'il était certain de vaincre. C'est le plus grand Jedi quand même. Donc, et puis on voit les déboires et.
Seulement par l'esprit. Hein.
Pardon?
Seulement par l'esprit.
Ouais, c'est ça. Et puis on va voir finalement que Yoda d'ailleurs a réussi à gagner son pari. On peut dire rapidement que, bon, à l'écran, il y a différents petits détails. J'irai pas dans tous les petits détails, mais comme quand Tyre regarde dans ses jumelles, il y a un texte en orekbesh qui marque infrarouge, puis mode normal, quand c'est traduit. Il y a toutes sortes de petits détails comme ça. Je pense que qu'est-ce qui a retenu vraiment l'attention, c'est les commentaires. Ben, même dans les trois épisodes, c'est comment les généraux Jedi sont attachés à leur clone. D'ailleurs, je vais passer trois extraits, un de chaque épisode, dans quelques instants, où on peut vraiment entendre des séquences où est-ce que le premier, c'est quand Yoda parle à ses clones. Dans le deuxième, c'est une séquence où est-ce que Plo Koon mentionne... Que les clones sont très importants. Et la troisième, c'est tout simplement le Comte Dooku qui mentionne à Grievous que la République fait plus attention à ses troupes que les séparatistes. Donc, je vous passe ça immédiatement et on va en discuter par la suite.
Come. Sit. Your helmets. Remove them. Your faces I wish to see.
There's not much to look at here, sir. We all share the same face.
Deceive you, Izkar. In the Force, very different each one of you are. Reese, always focused on the enemy, are you? For inspiration, look to yourself and those beside you. Jack, concerned about weapons you are. Weapons do not win battles. Your mind, powerful it is. Outthink the droids, you can. Tyre, rush not into fights. Long is the war. Only by surviving it will you prevail. Yes. Clones, you may be. but the Force resides in all life forms. Use it, you can, to quiet your mind.
Sergeant, why are you so certain no one is coming?
We're just clones, sir. We're meant to be expendable.
Not to me.
Boy, this is a lot more fun when they're not shooting back. I still can't seem to hit anything.
Venus, those battle droids are expensive. The Jedi are never that harsh with their clones.
The care these Jedi show for their troops is a weakness.
A weakness we shall continue to exploit.
Et voilà. Donc, c'est les trois extraits dont je viens de vous parler. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de la relation vraiment qui continue à être développée avec les clones et les généraux, la relation d'individualisme là, qui continue à se développer? Henri?
Ben, je trouve que ça fait un peu rappel à l'univers étendu de Karen Travis, donc on a l'impression que ça fait un petit lien, on a vraiment des clones qui sont vraiment indépendants. Mm-hmm. Donc comme moi qui ai lu la série République Commando, je trouve que ça fait une bonne continuité. Je trouve que c'est intéressant de voir toujours les clones indépendants, uniques et tout ça.
D'accord. Jean-François?
Je suis d'accord avec Henri aussi. J'allais aussi faire le lien avec ce que Karen Travis a fait avec la série Republic Commando. Je trouve que ça humanise les clones. Ça montre que même s'ils sont tous identiques physiquement, ben ils ont chacun leur caractère et ils ont chacun leur différence. Donc oui, c'est très bien.
Et toi, Louis?
Il faut dire que ça dépend. Non, je voulais juste dire que ça dépend aussi de leur expérience de la guerre. Donc, ils vivent pas les mêmes expériences, les mêmes batailles. Ils voient pas les mêmes. Peut-être qu'ils ont des frères plus proches qui voient mourir. Donc, ça forme un caractère différent pour tous.
Mm-hmm. Toi, Louis?
Moi, je dirais qu'au niveau des clones, c'est vrai que ça les humanise, mais faut pas oublier que c'est quand même des machines à tuer, d'un certain côté, et que pour moi, c'est des clones qui restent programmés génétiquement pour suivre leur mission. Hein. On voit bien, quand ils sont dans la capsule avec Plo Koon, ils disent « Sauf votre respect, monsieur, ça n'a aucun... ce n'est pas très stratégique si quelqu'un venait nous sauver, quoi. Mm-hmm. Et puis, c'est ce même aspect génétique qui les fera tuer tous les Jedi pour l'ordre 66.
Toi, Martin?
Ah, c'est ça. C'est, en quelque part, c'est la couverture que Palpatine a réussi à tirer sur les yeux des Jedi sur toute la ligne. Mm-hmm. Je veux dire, le jour où les Jedi acceptaient cette armée-là, ils se mettaient le pied dans le piège, si on veut. Et c'est là qu'arrive l'aspect des droïdes en production en série, et ainsi de suite, parce que l'idée, c'est d'avoir un élément protagoniste qui va forcer les Jedi à dire, on n'a pas le choix, il faut qu'on prenne cette armée-là. Là, les Jedi, au début, on les sent, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce monde-là? Mais à un moment donné, ils l'acceptent et ils essaient de se faire une raison, ils essaient de se justifier le choix qu'ils ont fait à travers ça, ce qui devient un élément extrêmement crève-cœur, parce qu'en bout de ligne, les clones, c'est l'as dans la poche de Palpatine. Le jour où il déclenche le bouton Ordre 66, il sait que c'est foutu. Mais tout le but de la guerre des clones, c'est d'éparpiller les Jedi, ça on le voit bien, ça c'est à peu près le seul élément très intéressant. Dans la prélogie, c'est toute cette mise en place qui est pas tellement bien faite à travers les films, mais que la série Clone Wars nous présente vraiment très bien. Ça va vraiment être un élément super. Après, une fois qu'on va terminer de regarder la série Clone Wars et qu'on va retourner voir Revenge of the Sith, je pense que cette scène-là va être encore plus crève-cœur qu'elle l'était avant.
D'accord. Et puis, je suis un peu aussi du côté de Louis. On parle souvent de l'individualité des clones. Je suis OK pour les clones plus spécialisés, comme les commandos, etc., ou les super battle droids, mais les clones génériques ont quand même été programmés ou brainwashed dans leur apprentissage au début. Donc, ils devraient pas avoir une si grosse différence avec les clones génériques puis des battle droids qui eux aussi semblent développer une individualité. Si on regarde leurs commentaires, on dirait qu'aussi ils développent leur propre individualité. Puis un droïde, ça n'a pas vraiment une certaine personnalité. Peut-être pas dans l'univers Star Wars, ça s'applique pas, mais bon.
mais ils sont quand même là, autant les clones que les droïdes sont là pour la quantité et le nombre. C'est de la chair à canon. Donc oui, on pousse l'individualité des clones, mais il faudrait pas trop la pousser non plus. Pour les clones spécialisés peut-être, parce qu'ils ont peut-être été programmés différemment, ils ont été un apprentissage différent, mais sur le clone générique, ça devrait pas être très différent. Jusqu'à présent, je pense qu'on a surtout vu des clones spécialisés comme vraiment ceux qui étaient accompagnés Yoda avaient l'air un petit peu plus spécialisés. Les pilotes dans le dernier, ça a l'air d'être des clones un peu spécialisés. Et puis on va peut-être en discuter un peu plus longtemps dans d'autres épisodes.
Je pense que ça retouche.
Oui, vas-y.
Ce que tu dis là nous ramène à l'épisode les grandes personnes inspirent la grandeur chez les autres.
Ouais.
C'est que par association, les clones développent une espèce de côté qui n'était pas prévu dans la soupe génétique dans laquelle ils ont été mis en place. Mm-hmm. C'était pas prévu, c'était probablement des éléments comme ça qui n'étaient pas prévus une fois mis au contact avec les Jedi. T'sais. Les Jedi les ayant embrassés, à un moment donné, inclus dans leur cercle de la vie, si on veut, là, parce qu'ils les considèrent, je pense que ça établit très bien, les trois épisodes qu'on a vus à date, ça établit très bien que les Jedi considèrent les clones comme étant faisant partie de la force. Là, ils auraient pu les ignorer et dire « Ah, mais c'est contre notre façon de voir les choses », mais en même temps, non, parce que la force, on s'entend, elle est partout, du moins selon le contexte. Et puis... je pense que c'est ça, c'est que par association, les clones n'ont pas le choix que d'en être un petit peu améliorés, même le plus moyen des clones, de la façon que les Jedi le traitent, augmente un petit peu. Là, tu sais, là. Mm-hmm.
En effet. Puis,
on est appelé à être plus que la somme de ses gènes, là, si on veut. Mm-hmm.
Un autre aspect que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est le fait que vraiment l'ambiance de la scène avec Yoda nous ramenait vraiment à Dagobah. Ils nous ont mis la même musique. L'ambiance était misée un peu comme Luke dans la hutte de Yoda. Ils nous ont vraiment ramené cette ambiance-là.
Je dirais que c'est peut-être un élément qui commence à me taper sur le pompon un peu. Là. L'espèce d'élément copié-collé là, de ce qu'on a déjà vu dans Star Wars. Là. D'ailleurs, la bataille dans l'épisode 3, l'attaque sur Malevolence avec les bombardiers.
En effet.
Pratiquement un mot. Pour mot, là, c'était pratiquement la bataille de Yavin, mot pour mot. Là, à un moment donné, c'est comme, forcez-vous un peu, s'il vous plaît.
D'ailleurs, c'est ça, j'ai noté certaines quotes. J'étais pour y revenir plus tard, mais bon, on parle justement de ces exemples-là, comme il y a le checking in de chaque clone. Il y a Deflector Double Front, Loosen Up, Watch Those Tower, I Have a Bad Feeling About This, qu'un droid mentionne, qui d'ailleurs, les droïdes n'ont pas vraiment de feeling. Et puis, encore, Most Impressive, puis From a Certain Point of View, qui est comme, même la scène finale que tu vois Anakin, R2-D2 puis Ahsoka qui regardent l'espace à travers le champ magnétique, c'est vraiment copié-collé de la fin de l'Empire Contre-Attaque.
Mais je dirais que la phrase « I have a bad feeling about this », je trouve que ça commence à bien faire. Parce qu'ils l'utilisent bientôt, comme dit Wookimar, ils vont l'utiliser... vont utiliser dans tous les épisodes, quoi. Hein, dans Revenge of the Sith, on le voit partout. C'est un droïde qui le dit. Comme tu dis, le droïde, il a pas de feeling, quoi. Donc, c'est vrai que ça commence à faire.
Uh-huh.
Et tout ça parce que c'est une phrase qui a été bien aimée par les fans.
Ouais, d'accord.
Et c'est toujours pareil, à force de la remettre, quoi, ça va le tuer.
Uh-huh. Et toi, Harry, qu'est-ce que tu penses des ils ramènent des éléments de la trilogie classique, comme ça, un peu trop?
Ben, certains, oui, peut-être un peu trop, mais celui du point de vue m'a bien amusé. Je trouvais que c'était, je trouvais qu'au contraire, celui-là, on l'entendait pas assez parce que je crois que c'est la première fois depuis la trilogie. Mm-hmm. Je crois qu'on l'a pas, donc je trouvais que c'était intéressant que d'autres Jedi, qu'Obi-Wan voyait ça d'un certain point de vue, certains événements. Ensuite, il est vrai que oui, que la phrase, I have a bad feeling about this, on va l'avoir, j'espère qu'on l'aura pas tous les épisodes, parce qu'on l'a eu dans les 6 films, j'espère qu'ils vont pas les mettre, pareil dans tous les épisodes, donc,
mais sinon, les rapports les entre...
Ainsi que tous les jeux vidéo, bien
ah,
sûr.
Ah oui. Ouais. Sinon, après les batailles, j'ai pas. Oui, je vois que ça ressemble, mais je trouve que. Je pense que dans toutes les batailles, ils font un rapport des forces. C'est pas seulement dans l'épisode 4, quoi. Je pense que. Bon, on les entend pas à chaque fois, mais je pense que dans toutes les batailles, ils font un rapport pour savoir si tout le monde est bien là, si tout le monde fonctionne bien, quoi.
Et toi, Jean-François?
C'est sûr que. Au début, c'est le fun qui font des petites références. Puis, comme pas mal tout le monde dit, ils commencent un peu trop à en mettre. Comme le I got a feeling about this, je pense qu'on l'a trop entendu. Là, c'est que ça n'a plus aucune signification. C'est même plus drôle. C'est plus. Mais sinon, c'est correct. Je veux dire, on va voir là, avec les autres épisodes jusqu'à où ils vont aller. J'espère qu'ils vont réaliser avant que, OK, là, on les a assez mis. On va passer à autre chose.
D'accord. Maintenant, deuxième épisode, pas la devise, mais la morale, croire n'est pas un choix, mais une conviction. Rapidement, le synopsis, on peut dire, c'est que les séparatistes ont une arme secrète entre guillemets, je dirais plus secrète dans le sens que la République ne sait pas qu'ils ont un gros format d'une arme qui existe depuis longtemps. Quand même, si on se fie à la chronologie, donc c'est peut-être plus dans le sens que c'est secret que cette arme-là en si gros format. Et puis il y a beaucoup de vaisseaux de la République qui se font détruire, qu'il n'y a pas de témoins, donc la République, même Anakin décide d'aller voir pour s'il y a des survivants de la dernière attaque que le maître Plo Koon avait. Était participant, et c'est là qu'on voit, on découvre le Bismarck des séparatistes, si on peut dire, qui est l'énorme Malevolence, qui est comme le vaisseau de General Grievous. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Je sais pas si vous avez des commentaires à première vue. Moi, il y a une chose que j'ai marquée. Que j'ai, en écoutant un autre podcast, j'avais pas vraiment allumé, c'est que il décide d'appeler Plo Koon Master Plo au lieu de Master Koon, parce que Koon, c'est un terme raciste aux États-Unis, qui étaient les Noirs qui travaillaient dans les champs de canne à sucre. Donc c'est la raison pourquoi ils l'ont appelé Master Plo et non Master Koon, comme le nom de famille. Habituellement, tu utilises le nom de famille après.
Ben, je dirais que ça, c'est pas vraiment choquant. On les voit déjà appeler Obi-Wan Kenobi, Maître Obi-Wan ou Maître Kenobi.
Ouais.
C'est déjà arrivé.
En effet.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la voix de Plo Koon? Moi, je me l'imaginais pas nécessairement comme ça. C'est la première fois qu'on l'entendait vraiment dans le deuxième épisode.
Mais faut dire qu'il a son masque aussi, donc il doit déformer un peu sa vraie voix. Mais c'est vrai que ça surprend un peu, mais une fois qu'on l'a entendu, on finit par s'habituer, quoi. C'est juste l'impression initiale, comme on s'en faisait une autre. On se fait un peu surprendre. Mm-hmm. Mais après.
C'est ça.
On avait comme l'impression qu'il y avait une voix un peu plus, pas robotique, mais un peu plus filtrée. Mais comme vous dites, c'est ça. Sur le coup, on est comme, ah, ok, c'est sa voix.
Ah, on s'habitue. C'est comme, ah, il est britannique. Ah, je savais pas.
Ouais, c'est ça.
C'est pas le premier personnage à la voix synthétique là, qu'on rencontre dans cette série-là.
Ah, c'est sûr.
Du moins dans l'univers de Star Wars. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est.
Ça, j'aime pas trop, hein, finalement.
Mm-hmm. Vas-y, Martin.
Ben, c'est probablement dû au fait qu'il vient d'une atmosphère différente de la nôtre. Je connais pas toute l'histoire en arrière de Plo Koon, mais il vient probablement d'un environnement à base de méthane ou quelque chose comme ça, j'en ai aucune idée. Ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est tout le petit détail artistique qui est présenté sur son masque. Fait que c'est pas juste un outil pratique. On sent qu'il y a une culture en arrière de ça. Il y a quelque chose d'artistique d'ajouter au masque. Là. Ça fait partie de la culture de son espèce.
C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez pensé du vide de l'espace? Plo Koon mentionne, oui, je suis capable de rester un petit moment dans le vide, dans le vide de l'espace. OK, il mentionne donc OK, peut-être que Plo Koon est capable, mais les clones, on le sait que les armures ne supportent pas vraiment l'espace. C'est un petit détail technique, mais il me semble que ça m'a fait décrocher quand ils ont dit quand je les ai vus dans l'espace, personnellement j'ai dit non, come on. Est-ce que ça vous a-tu dérangé, toi, Henri?
Ben, j'ai pas tellement pensé pour les clones. Plo Koon, je me suis dit que peut-être qu'il venait d'une planète aux conditions plus sévères, peut-être que leur corps supporte mieux. Et en plus, comme il a son respirateur, peut-être que ça l'aide. Par contre, ce qui m'a un peu dérangé, c'est le fait que même si on a du son dans l'espace dans Star Wars, ça m'a un peu surpris qu'il arrive à parler quand même aux clones.
D'accord.
Parce que les clones, ils peuvent parler avec un communicateur, mais Plo Koon, je crois que c'est un peu poussé le fait qu'il y ait du son dans l'espace dans Star Wars.
Mm-hmm. Toi, Jean-François?
Il y a un défaut très massif dans cet élément-là. Mm-hmm. Il y a un gros trou dans cette scène-là que personne n'a mentionné. Et c'est justement qu'on a, dans la capsule de sauvetage, on a deux clones en armure, Plo Koon, mais aussi on a un officier. Mm-hmm. Il n'a pas de masque, il n'a pas rien, lui-là, là. Et à ce que je sache, les canaux de sauvetage n'ont pas d'écoutille. C'est juste une porte, point.
En effet.
Donc, ils sont sortis comment? Sans que l'autre est
retiens ton souffle!
Ouais. Non,
j'avais pas du tout pensé à ça.
Vas-y, Jean-François, toi.
Non, mais c'est ça. Moi, quand je l'ai vu sortir, j'ai dit, ben là, c'est parce qu'il en reste un, là, vous avez fait quoi avec, là?
Toi, Jean-François?
C'est ça. Non, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous venez de dire? Pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu ridicule. C'était un peu poussé. C'est poussé un peu trop, là, je veux dire. Tu sais, même Plo Koon, là, je veux dire. Ben, c'est sûr que l'espace Star Wars, c'est différent de l'espace réel, là. Mais c'est un peu tu sais, même comme tu dis, les clones, l'armure devrait pas supporter, tu sais, parce que l'Empire avait ce qu'ils appellent des space troopers, donc l'armure était différente, le suit était différent, donc. Puis comme Martin a mentionné, la grosse erreur que l'autre clone qui reste dans la capsule, ils ont fait quoi pendant ce temps-là, là?
Et toi, Louis,
comment ça reste,
est-ce que tu as
avec les vieux dessins animés de Star Wars? Mm-hmm. Les vieux dessins animés qui étaient faits par Marvel qui faisait ça, je me souviens plus, non, c'était. À un moment donné, je me souviens, tu as Luke puis Han qui sont sur la coque du Faucon pendant que Chewbacca conduit. Puis tout ce qu'ils ont, c'est un petit masque là, à oxygène sur le visage, les muqueuses à exposer au vide de l'espace, let's go, tu sais, comme. Bravo!
Toi, Louis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus?
Bah oui, bah ça, c'est, de toute façon, c'est la grande scène bidon de l'épisode. C'est la sortie dans l'espace. Alors, c'est la fête. Ils peuvent parler, ils peuvent tout faire. Bon, au-delà du son qu'on a déjà parlé, il y a aussi donc le problème de l'oxygène. Bon, peut-être que Plo Koon peut retenir sa respiration ou être mélange, je sais pas. Les clones, c'est pareil, peut-être qu'ils sont des petites capsules, mais est-ce qu'elles peuvent tenir autant de temps? Après, au-delà de la respiration, il y a aussi le froid de l'espace.
Mm-hmm. En effet.
Comment ils font pour résister au froid de l'espace? Surtout Plo Koon qui sort avec ses petits vêtements, quoi.
En effet. Il y a aussi, on a montré des corps, encore une fois, dans l'espace, simplement les droïdes arrivent avec leur petit droid hunter, puis ils envoient le monde, ils enlèvent le pas le vitrail, mais ils enlèvent la fenêtre des pods, et puis ils tuent les gens tout bonnement, puis on le monte à l'écran. Si je me souviens bien, il y avait une controverse lors de l'épisode 3 parce qu'on voyait des clones mourir dans l'espace, dans la bataille de Coruscant au début. Il y avait une controverse un peu sur Internet. Est-ce que ça vous surprend, surtout que c'est aussi une émission pour enfants? Est-ce que ça vous surprend qu'ils montrent ça? Et puis, poursuivre, pourquoi que les droïdes ont été, manuellement dans l'espace, aller sortir les capsules une par une quand ils auraient pu envoyer un droïde vautour, là, les Vulture droïdes, faire le travail, puis tout simplement tirer la capsule, et puis ça aurait été fini. Donc à toi, Henri.
Moi, Je sais pas tellement.
D'accord.
Je pense que peut-être qu'ils ont pas utilisé un gros vaisseau, peut-être pour pas trop attirer l'attention. Mm-hmm. Parce que peut-être que la capsule, ils l'entendent, les clones l'entendaient moins. Mm-hmm. Enfin, c'est que si on prend encore l'histoire du son dans l'espace.
Ouais.
Peut-être qu'ils l'entendaient moins arriver un petit vaisseau. Mm-hmm.
Que Jean-François. Voilà.
Ben, moi, je veux dire, oui, c'est intense qu'on voit les clones mourir comme ça, puis ça revient peut-être à ce que je disais plus tôt, la blague après ça, que les droïdes, ils se font une petite blague entre eux autres, que moi, je trouvais qu'il y avait pas sa place à ce moment-là, mais ils ont peut-être justement mis ça pour les enfants, c'est une émission pour enfants, là.
C'est ça.
Même si c'était quand même assez intense, là.
D'accord. Et Louis?
Bah, je suis à peu près d'accord avec Jean-François. On va dire que The Clone Wars, pour l'instant, c'est tout au contraire. Hein. D'un côté, on a les blocs droïdes qui sont très enfantines, et d'un autre côté, on a quand même des morts qu'on peut qualifier de très violentes par rapport aux clones. Hein. Alors dans l'espace, où ils sont en train d'étouffer, par exemple, le film où ils chargent dans la bataille de Christophe Zis, les morts sont très violentes. Donc oui, on a vraiment ces deux aspects-là dans le film.
D'accord. Et toi, Martin, as-tu quelque chose à rajouter?
Ben, en fait, c'est au sujet du choix d'aller se promener dans les débris avec un espèce de casse-noisette version droïde. Je pense que l'idée, c'est si on avait envoyé des droïdes chasseurs, ça aurait éliminé c'est un choix, je dirais, pour raconter l'histoire. Là. Si on se met dans une situation où on n'a pas, c'est à sens unique, donc ils n'auraient pas eu le temps de présenter la situation, une chose comme ça, la discussion entre les clones, ainsi de suite, avec Plo Koon dans la nacelle de sauvetage n'aurait pas eu lieu, parce que c'est trop rapide, ainsi de suite, tandis qu'avec cette approche-là, ben, ça nous permet de présenter des personnages, une chose comme ça. Oui, c'est pas le meilleur choix logique, mais d'un point de vue dramatique, ça fonctionne. Maintenant, pour ce qui est de la mort des clones, je te dirais qu'à date, tout ce qu'on a vu, quand on voit un clone tomber, on le voit en armure, on le voit pas sans casque. Donc, il y a un côté très inhumain à ça. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi il a choisi de mettre des droïdes comme méchants dans la prélogie, c'était qu'il pouvait se permettre d'en couper en quantité industrielle et pas avoir à se taper le rating de... PG-13, ben en haut de PG-13, là, donc R, je crois.
Pourtant, le premier qu'on voit sortir, c'est un officier. La première capsule, pas la capsule
raison,
de Plo Koon, mais l'autre, c'est quand même... On voit l'officier accroché pratiquement mort après
vrai,
la fenêtre.
C'est vrai,
puis,
c'est vrai.
Donc...
Ouais.
C'est un choix surprenant, mais bon, s'ils veulent atteindre aussi une partie d'adulte, ben peut-être que oui, bon.
Ben l'idée c'est que on n'est plus en 1990 là, tu sais, je veux dire les jeunes, puis faut s'entendre, je pense que les jeunes ont vu pire à la télévision là, je veux dire,
juste aux nouvelles.
C'est tout ce qu'ils pensent avec ce qu'ils pensent, bon, c'est ça, juste les nouvelles puis Much Music puis ainsi de suite là, tu regardes les chaînes de vidéos là puis je m'excuse là mais il y a pire là. Côté dramatique, je pense qu'on peut s'attarder à autre chose. Maintenant, concernant l'humour, je te dirais, justement, ça c'est un exemple très intéressant, les droïdes qui ont été pour donner sa chanson. Pour ce droïde-là, il n'y a pas de différence entre se promener puis ouvrir des cannes de concert dans le vide de l'espace. Pour lui, c'est une fonction comme une autre, c'est juste, il remplit son programme, là. Je veux dire, il n'y a pas à avoir de... Fait, son humour est peut-être déplacé selon notre point de vue, mais lui, c'est sa tâche de la journée. Je veux dire. Tantôt, il faisait de la maintenance dans les baraques. Là. Il vient d'avoir sa job d'aller faire l'auto et nettoyer les débris.
C'est comme les sept nains. C'est comme les sept nains sifflés en travaillant.
Ah oui, c'est ça. Je veux dire, peut-être qu'il a eu sa mise à jour, lui, on sait pas. T'sais.
D'ailleurs, on a vu que les droïdes.
Les droïdes les plus efficaces qu'on a vus à date.
Puis on a vu que les droïdes peuvent avoir des promotions, ce qui est plutôt surprenant.
Ouais. C'est dommage qu'ils aient pas le bundle de commandes qui vient avec, par exemple.
Ouais, c'est ça. En effet.
Service Pack 3, quelque chose comme ça.
On va sauter au troisième épisode, Shadow of Malevolence, qui est le deuxième épisode de la trilogie du Malevolence. La devise de celui-là, c'est « Facile est le chemin vers la sagesse pour ceux qui ne sont pas aveuglés par leur ego ». Ici, je trouve que ça fait vraiment référence à Anakin qui prend des décisions peut-être... il veut faire toujours à sa tête, même si les autres lui disent « C'est peut-être pas la bonne idée » ou « Tu devrais... » peut-être nous écouter un peu plus. Donc l'épisode en gros, c'est que le Malevolence continue à faire à massacrer la République et puis Anakin décide d'organiser une attaque contre le Malevolence, plus spécifiquement pour éliminer le général Grievous directement. Et puis ils vont prendre un raccourci pour aller rejoindre la base médicale que le Malevolence prévoit aller attaquer. Et donc, il y a énormément de clones en train de se faire soigner à cet endroit-là. Donc, le Malevolence veut vraiment, justement, faire mal à la République en allant détruire la frégate médicale. Mais, justement, le Malevolence doit contourner la nébuleuse, tandis qu'Anakin, lui, il va directement au travers avec les Y-Wing. Et puis... évidemment, on voit qu'il rencontre certaines créatures en passant par là. Et puis, ils vont quand même réussir à tout de même endommager le Malevolence en changeant d'idée. Donc, Anakin, en écoutant Plo Koon et Ahsoka, décide « D'accord, on va attaquer l'arme au lieu d'attaquer Grievous parce qu'on est en train de se faire décimer complètement. » Donc... bon, comme on a mentionné, il y a énormément de références à la trilogie classique dans cet épisode-là. C'est beaucoup trop même. Mais bon, le check-in, ça c'était correct. Juste avoir mis les clones qui se rapportent à Anakin comme de quoi qu'ils sont présents, ça me dérange moins parce que c'est peut-être une routine, une procédure militaire. Donc, ça me dérange moins ce côté-là. C'est plus vraiment les autres comme on a parlé. Qu'avez-vous pensé de la bataille spatiale en tant que telle? On va commencer avec Jean-François cette fois-ci.
Moi, j'ai pas vu l'épisode au complet, Je peux pas vraiment commenter.
D'accord. Et toi, Louis?
Je l'ai.
pour la bataille du troisième épisode, moi j'ai trouvé ça tout à fait fantastique. Hein. C'est peut-être même la meilleure bataille qu'on ait depuis la trilogie classique. Hein. Parce que bon, c'est vrai que pour les prélos, notamment la bataille de Coruscant, c'est très spectaculaire. Mm-hmm. Mais comme ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas un suivi des protagonistes clone par clone, quoi. Alors que, par exemple, la bataille d'Endor, on voyait Wedge Antilles, on voyait différents groupes d'escadrons Rogue, on les voyait tous, et ça, c'est vraiment sympa. Et c'est ce qu'on retrouve avec l'escadron Shadow. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis l'explosion finale du Malevolence, là, ça m'a carrément soufflé, quoi.
En effet.
Vraiment, vraiment magnifique, quoi.
Toi, Martin?
Ah ouais, moi, je suis vendu à 100 000 à l'heure, là. C'est vraiment génial. Puis, il y a une belle fluidité dans le combat. Quand les bombardiers doivent éviter l'onde de choc du canon à ions, c'est vraiment génial. Et puis le fait que... on en perd, des membres de l'équipage, des membres de l'escadron sont laissés en arrière, soit dans la nébuleuse ou des choses comme ça. Oui, c'est des clones, ainsi de suite, mais par le fait même de nous les personnaliser un petit peu, ça nous fait toujours quelque chose d'en perdre un ou deux. Donc, on est vraiment dans le même bateau que les Jedi concernant les clones. C'est vraiment du solide. Et aussi, le texte d'ouverture, le thème de l'épisode, si on veut, je trouve qu'il s'applique aussi un petit peu à Grievous, parce que là, Grievous est vraiment certain de son coup, là, il est vraiment la machine à tuer idéale, et il devient un petit peu, il se gonfle lui-même un petit peu, mais tout d'un coup, il y a un petit comique avec quelques bombardiers qui débarquent et qui lui tronçonne les roupignoles, si on veut.
C'est ça, je suis en train de chercher le nom de celui qui est mort, qui avait hâte de prendre son petit drink en revenant de la bataille.
Mais... je
pense que c'est Broadside. Si je me trompe pas, c'est Broadside Shadow 2 qui éclate.
C'est ça. Donc c'est là, on voit...
Et Tag.
C'est ça. C'est ça, ils nous font nous attacher un petit peu au personnage, son originalité, son individualité, et nous le tue. Vrai que demain dans l'épisode, c'est un classique du cinéma, dans le fond, là.
Ouais, mais c'est un peu normal, parce que c'est normal que l'escadron d'Anakin soit gonflé à bloc, parce qu'Anakin lui-même est gonflé à bloc, mais à un moment donné, c'est ça. Je pense que c'est Ahsoka qui lui dit, ou Plo Koon, qui lui dit, toi, tu vas te rendre, mais il n'y a pas personne d'autre dans l'escadron qui va se rendre, là, donc lève le pied un peu.
Ça revient un peu aussi à la devise du premier épisode qui dit les grands leaders inspirent les c'est autres, ça. Dans le fond.
Ah non, il y a un leitmotiv bien intéressant qui s'installe à travers la série. Là, je pense qu'on va avoir quelque chose de très intéressant avec le temps.
Et toi, Henri, par rapport à la bataille spatiale?
Comme disait Martin, oui. Je trouve qu'avec les clones, c'est beaucoup plus intimiste. On les voyait plaisanter avant la bataille, et après tout d'un coup, on les voit mourir. Donc on se dit, c'est dommage pour eux. C'est un peu ce que disait Dave Filoni dans un de ses commentaires. On apprend à les connaître, et après on n'a pas envie de les voir mourir. Mm-hmm. Mais ça donne encore un plus gros poids. Ça donne un plus gros poids encore plus pour l'ordre 66 après quand on voit là maintenant les clones sympas qui se font des blagues entre eux, qui sont proches des Jedi, et tout d'un coup ils se déclenchent l'ordre 66 pour les tuer, quoi.
Mm-hmm. Une autre chose.
Je peux pas faire autre. Oui.
Allez-y.
Excusez. Vas-y, Louis.
C'était Henri, je crois.
Ce que je voulais dire...
Henri, excuse.
Ah, allez-y. Non, mais j'avais un petit commentaire général, sinon, après.
Ouais, bah, je voulais juste rajouter un petit truc sur... Vas-y. Oui, c'était juste un petit truc que je voulais rajouter sur l'ordre 66, vous en avez parlé tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le préciser, c'est que, en fait, c'est pas du tout un lavage de cerveau, enfin, pour l'univers étendu, parce que j'ai fini Order 66, il y a pas longtemps, de Karen Travis, et elle dit qu'en fait, c'était juste plus d'une centaine de règles que les clones avaient appris, mais qui pensaient que c'était vraiment des trucs de dernière, vraiment inutiles, que c'était vraiment pour les grandes occasions. Ils s'attendaient pas du tout à que ça se réalise, en fait, un truc comme ça.
D'accord.
Donc voilà.
J'ai bien hâte de le finir.
On pourra jamais le gober.
Toi, Louis, qu'est-ce que tu voulais rajouter?
Donc c'était d'ordre général et ça concernait Ahsoka, donc et sur le film et les trois épisodes. Plus ça va, plus il y a un truc qui est en train de l'inquiéter de façon grandissante, c'est que Ahsoka apparaît comme étant super Padawan.
Okay.
Là, on la voit qui arrive à combattre trois Maniagard dans le film, et puis c'est toujours elle, visiblement, qui a les meilleures idées, et qui même donne des leçons à son maître, et limite insolente, et c'est elle qui a les meilleures idées, c'est quand même elle qui a fait changer le plan de Skywalker pour qu'ils aillent attaquer le canon à ion. C'est elle qui a dit qu'il fallait absolument chercher Plo Koon parce qu'elle le ressentait alors qu'Anakin était incapable de le ressentir. Donc ça m'inquiète grandement, je trouve que c'est un peu bidon, surtout chez les jeunes, apparemment elle aurait environ 12 ans, quelque chose comme ça, ça me paraît peu crédible.
Qu'est-ce que t'allais dire, Henri?
Oui, je pense que c'est aussi par rapport à l'impétuosité d'Anakin. Je veux dire qu'il voulait absolument poursuivre son plan à la fin du deuxième. Il avait pas l'intention de changer, c'est qu'elle lui a un peu ramené à la raison. Et dans... Tu parlais de quoi déjà, Louis, pour l'autre... Ah oui, pour... Non, je sais plus. Tu parlais des Magnagard et quoi d'autre? Et l'autre, c'était quoi, parler...
C'est elle qui sentait que Plo Koon était en vie.
Ah oui, Plo Koon, je pense que...
Anakin n'était pas capable de le sentir.
Bah, je pense que, comme je disais, c'est vraiment l'impétuosité d'Anakin. Il est persuadé d'une chose et il veut pas s'en démordre, quoi. Mm-hmm. Et je pense que c'est un peu, comme disait Yoda, c'est un peu lui aussi pour l'apprendre à se freiner qu'il lui a confié cette Padawan, bien qu'il lui apprend des choses, elle lui apprend aussi certains d'autres côtés plus calmes des Jedi, je pense.
Mm-hmm. Ok, ensuite.
Je pense que ça adresse.
Vas-y Martin.
Ça adresse peut-être un côté du psyché d'Anakin qui va l'amener justement à devenir qui va devenir, comme on le sait tous, c'est que il prend tout sur lui. Il prend vraiment tout sur lui, puis chaque petit défaut, il se blâme pour ça, et ainsi de suite. Donc à un moment donné, il perd la perspective. Je pense qu'Ahsoka a le luxe de ne pas avoir toute cette charge émotive sur le dos, et c'est ça qui lui permet d'avoir un peu de perspective. Bon, j'admets, elle est un peu jeune pour la chose, mais elle doit avoir quelque chose d'exceptionnel, sinon le Conseil Jedi n'aurait pas refilé cette Padawan-là à Anakin, qui est hors du commun lui-même. Je pense que ça va de soi.
Et le fait que Ahsoka inspire beaucoup Anakin, lorsqu'elle va disparaître, ça va faire un plus gros impact sur Anakin encore. Parce qu'il...
Exactement.
Il va qu'elle disparaisse d'ailleurs.
Enfin, comme c'est une émission pour enfants, je sais pas s'ils vont vraiment la tuer. Peut-être qu'elle va juste être envoyée en mission à l'autre bout de la galaxie et qu'il va être obligé de la voir partir.
On va peut-être la voir mourir dans un roman au lieu de le voir à la télévision.
Ouais, peut-être. En effet.
Ça serait un peu bizarre de la voir disparaître tout d'un coup pour ceux qui lisent pas les romans. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, un épisode elle est là, le suivant elle est plus là. Donc où je pense, où ils vont la tuer, ou alors elle va devoir partir. Anakin va devoir la voir partir. Ça va le toucher émotionnellement, quoi. Mm-hmm.
Une autre chose.
Le plus probable, c'est qu'elle change de maître. Hein.
Vas-y, Louis.
Et je disais que le plus probable, c'est qu'elle change de maître, parce que c'est vrai que, comme disait Henri, ça m'étonnerait qu'il la fasse mourir. Hein. Ça reste quand même une série pour un jeune public. On va vraiment s'attacher à elle. À mon avis, il y a beaucoup plus de chances qu'elle termine avec un nouveau maître et que par contre, après, on puisse apprendre que dans l'ordre 66, elle était au temple ou qu'elle s'est fait traquer par Anakin plus tard. Mais c'est que de la spéculation.
Ici, justement, on parle de relation maître-apprenti. Au départ, ce que je croyais que la série nous amènerait, c'est beaucoup d'interactions entre Obi-Wan et Anakin. Mais maintenant que la série est commencée, on voit qu'Obi-Wan est plutôt absent de la série, où il est là vraiment en arrière-plan. Et on remplace l'interaction peut-être qu'on attendait entre Obi-Wan et Anakin. Puis on nous montre plus ou on la remplace par la relation d'Ahsoka-Anakin. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Henri?
Oui, peut-être, mais je trouve qu'il y a quand même une interaction. C'est-à-dire que même. C'est comme dans le deuxième épisode du Malevolence, je m'attendais pas à le voir carrément Obi-Wan. Mm-hmm. C'est qu'après, on le voit quand même qu'il a une petite discussion avec Anakin qui montre bien que la relation a changé depuis le début de la guerre, depuis l'épisode 2. C'est pareil que dans le film aussi, à un moment ils discutent un peu entre eux comme ça. Je trouve que ça, tout ça, non, je trouve que Obi-Wan est assez là. Bon, peut-être pas autant qu'on pourrait, c'est vrai, s'y attendre, mais ils peuvent pas non plus trop mélanger Obi-Wan et Ahsoka. Après, ça ferait trop, ça serait peut-être un peu redondant.
D'accord, Jean-François,
ça peut peut-être un peu à l'encontre. De ce qui a été déjà imposé dans l'univers, dans le sens que au début de Revenge of the Sith, Obi-Wan puis Anakin sont supposés être comme les meilleurs amis, ils sont comme frères, sauf qu'on les voit jamais ensemble. Si on lisait ceux qui ont lu des bandes dessinées Clone Wars, Obi-Wan et Anakin étaient presque tout le temps en mission ensemble, puis là Ahsoka arrive puis Obi-Wan et Anakin sont pas ensemble du tout. Donc je sais pas où ils vont aller avec ça, mais j'espère que ça va pas tout défaire ce qui a déjà été mis dans l'univers étendu.
Louis?
Ben, moi je pense que c'est tant mieux, hein. Parce que maintenant qu'Anakin est chevalier, c'est vrai que ça aurait été bizarre qu'il soit systématiquement avec Obi-Wan. Après, rien n'empêche qu'il y ait plusieurs missions où ils sont ensemble, hein, comme ça va être le cas pour Boss Pity, par exemple.
Martin?
Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que là, présentement, oui, ça semble, on semble avoir beaucoup d'activités avec Ahsoka et Anakin. Ce que j'espère, c'est qu'avec le temps, on va tranquillement se déconnecter un petit peu de tout ça et qu'on va aller, tout comme la série de 2003 de Clone Wars, qu'on va explorer un petit peu les autres personnages, les autres aspects, sans toujours avoir dans l'arrière-plan. Ils peuvent être dans l'arrière-plan, mais qu'ils ne soient pas toujours au premier plan. Anakin, Ahsoka et Obi-Wan. Obi-Wan a déjà été mis de côté. On le voit plus souvent en hologramme qu'autrement. C'est pas mauvais en soi. Ça nous explique que la guerre est telle que il faut s'étendre très mince. Le conseil des Jedi se réunit à travers le réseau holographique parce qu'ils ont plus le luxe de pouvoir se réunir ensemble au même endroit. Donc je te dirais, si on peut explorer un petit peu personnage par personnage à travers la série au fur et à mesure que ça va évoluer, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant, avec toujours Évidemment, les protagonistes principaux qui viennent faire surface de temps en temps, qui viennent sauver la journée, si on veut. Là. Mm-hmm. Mais c'est ça. T'sais, j'adorerais revoir un élément retourner, explorer avec Kid Fisto ou ma favorite, voyons, Shakti, des choses comme ça. Il y a des membres du Conseil Jedi que j'aimerais qu'on voit plus. Là.
D'accord. Est-ce que vous trouvez que Anakin... Donnez-moi deux secondes. Est-ce que... Non, c'est parce qu'il fallait que je sauvegarde la vidéo. Est-ce que vous trouvez que... Est-ce que vous trouvez qu'Anakin est un peu trop sage et raisonnable et qu'il n'est pas assez, comme pendant la prélogie, impatient et réfléchi dans ses décisions, etc.? Est-ce que vous trouvez que présentement, il est trop sage à comparer qu'est-ce qui est démontré dans la prélogie?
Moi, je trouve qu'il est dans son élément.
D'accord.
Est-ce qu'il y a un... C'est la guerre, il faut que ça bouge vite.
D'accord, Henri?
Ben, il reste comme un Jedi à l'origine, donc et je pense aussi que, un peu que j'en reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'Ahsoka le ralentit un peu, l'oblige à lui apprendre des choses, et donc ça lui, peut-être qu'en même temps ça lui rappelle certains principes Jedi, un peu comme ça, quoi.
Jean-François?
Ben, comme j'ai dit juste avant, je trouve que je suis d'accord avec Martin, Anakin est dans son élément. Il, quand même, on voit un peu qu'il fait un peu à sa tête, mais il est pas... Non. Moi, je trouve que c'est correct. Il n'y a pas de... C'est pas trop. C'est pas assez. Là. Mm-hmm. Je trouve que ça rapproche avec un peu comment qu'il est dans la revanche des Sith. Là.
OK. Et puis, si on pourrait terminer, il reste Louis. Alors, par rapport à ça?
Ben, moi, je pense que c'était plutôt équilibré, hein. Oui, l'absence d'action, il en retrouve, il fait toujours ce sa tête, mais je pense surtout que le personnage qui prend la place de celui qui est un peu plus impulsif, pas irréfléchi, hein, mais impulsif, c'est Ahsoka. Par exemple, quand elle se retrouve devant Windu, devant le chancelier suprême et Yoda en conférence, et elle se permet de parler sans avoir eu d'autorisation, par exemple.
D'accord. Donc, sur ce, est-ce que certains ont des commentaires par rapport au preview de la semaine prochaine? Donc, l'épisode où est-ce que Padmé va être impliquée?
Oh oui. Alors,
vas-y, Louis.
Je m'attends au pire.
Au pire?
Je m'attends au pire.
Ouais, pas la main qui nous l'installe.
Vas-y, Louis.
Oui, il fallait bien qu'il la cale. Et c'est bien ça qui me fait peur, parce que c'est ce qu'ils ont fait avec le film. Et finalement, c'est vrai que c'est Padmé, la petite sénatrice d'une planète que personne ne connaît dans toute la République, qui se retrouve toujours impliquée dans des histoires pas possibles, quoi. Alors, le problème, c'est, est-ce que ça va être crédible? Donc, on verra ça la semaine prochaine.
On va sûrement voir l'impatience d'Anakin, justement. Il faut que j'aille sauver ma femme!
Ouais, c'est ça.
Toi, Henri, par rapport à ça?
Ben, je pense qu'en fait, Parce que Padmé, elle est proche de Jedi, donc elle devient une cible un peu évidente. C'est comme, je crois qu'à un moment, on va la voir sur Rodia, quelque chose comme ça, aussi en prise avec des droïdes. Je pense que comme elle est proche de Jedi, du conseil, du chancelier, un peu indirectement, je pense que ça la met dans la ligne de mire des séparatistes.
D'accord. Et puis, finalement, Martin, par rapport au preview.
Ben moi je te dirais, il y a de deux choses là. Je redoute une chose, c'est ce que j'aimerais, c'est revoir la Padmé d'épisode 1. La Padmé agressive, la Padmé qui prend les choses en main, la Padmé qui ne laisse pas les choses telles quelles, qui n'accepte pas le statu quo et qui dit et qui rue dans les brancards. C'est la mère de Léa après tout là, faut que ça vienne de quelque part là, puis c'est clair que ça vient pas d'Anakin, donc faut que ça vienne de maman. Donc, mais ça a été comme effacé, ce personnage-là, et devenu comme une copie pâle d'elle-même dans les deux autres films. Là, c'était la petite victime qui a besoin d'être sauvée à tous les coins de rue. Donc, j'aimerais ça revoir cette Padmé-là refaire surface. Est-ce que ça va arriver? Je le sais pas. Je le redoute un petit peu. Mais bon, peut-être qu'ils veulent nous piéger avec la bande-annonce de dire « Ah, Padmé est dans le trouble ». Puis là, finalement, elle va arriver, Anakin va se mettre dans la soupe, puis c'est elle qui va le sauver, là. Je sais pas. C'est, ça reste à espérer. C'est, je m'ennuie des personnages féminins solides, comme celui de... Voyons, une de mes phrases favorites, c'est quand Léa dit « Quand t'es venu pour nous sauver, est-ce que vous aviez un plan pour sortir d'ici, là, quand ils sont coincés dans la cellule, mm-hmm. dans le corridor de la cellule, à bord de l'étoile noire? » Et évidemment, c'est elle qui prend les choses en main. Donc, c'est ça. Là. J'aimerais ça voir ce personnage-là avoir un petit peu... Pardonnez-moi l'expression, mais avoir un peu plus de couilles.
En effet. Bon, ben, merci beaucoup pour cette table ronde. C'était vraiment bien réussi. Ça fait
plaisir à Nathalie Portman.
Alors, merci beaucoup pour cette table ronde. On va immédiatement partir en pause musicale et puis on revient ensuite avec le sujet principal. Mon Dieu, que le temps passe! Avec The Force Unleashed.
On est dans les temps, hein?
Ah, oui, oui.
Et toujours en forme.
Ouais, exactement. Donc, on revient dans quelques instants à Star Wars en direct. La voix du fandom Star Wars. Ceci termine cette édition de Star Wars en direct, édition Clone Wars. Si vous avez des commentaires sur cet épisode ou des suggestions, laissez-nous un message sur notre boîte vocale Skype usagée SW en direct ou écrivez-nous à studio@swendirect.com. Je vous rappelle que la prochaine émission live se déroulera le 16 novembre 2008 dès 13h heure du Québec et 19h heure de France. Le sujet de cette émission sera le nouveau contrat de l'éditeur Del Rey et aussi la critique du roman de Karen Travis, Order 66. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.